des gens qui ont réussi à être à l'heure. Et notre soirée trouve sa place dans la vie moderne, parce qu'il y a toutes sortes d'avantages dans le fait de vivre en 2016. Nous avons de la nourriture à profusion, nous avons une paix durable dans notre pays, les avancées scientifiques rendent la vie très facile. Imaginez, messieurs, s'il n'y avait pas de lave-vaisselle, ou peut-être mesdames. Donc toutes sortes de choses qui rendent la vie plus facile. Et le problème avec toute cette facilité, c'est qu'elle peut nous donner l'impression que la vie normale, c'est la vie où il n'y a pas de problème important. Et notre sujet de ce soir, c'est le rappel, peut-être un peu cruel, mais nécessaire, que dans la vie normale, il y a des choses désagréables, des choses qui font peur. Et nous allons prendre une de ces choses-là ce soir et la regarder en face. Je dis nous, moi je vais parler le moins possible, c'est mieux pour tout le monde, ce n'est pas mon domaine de compétence. Nous avons deux intervenants, deux experts dans leur domaine, et ils vont venir nous expliquer comment eux ils vivent cette question de l'arrivée de la maladie grave, ou peut-être l'arrivée de la maladie grave. Je vais d'abord accueillir le docteur Christophe Mavoula qui va venir, s'il veut bien. Passez par là, Christophe. On fait comme à la télé, je vais dire bonjour comme si je ne le connaissais pas. Salut, ça va bien? Voilà, installez-vous. Alors, le docteur Mavoula est cardiologue. Il exerce pas très loin d'ici. Et il est encore un petit peu en décalage horaire parce que pour une grande partie de la semaine, il était dans un colloque professionnel de cardiologue quelque part aux USA. Mais ceci n'est pas tout à fait le sujet de ce soir. Alors, est-ce que tu peux aller juste un peu à droite pour que toi et le micro soient en face l'un de l'autre?
Voilà.
Alors, et ça, c'est la bonne distance.
Ah, ouais.
Donc,
j'avance
un peu, s'il te plaît. Oui, oui. Ne me regarde pas, parce qu'il faut parler dans l'axe du micro. Donc, tu me réponds si tu veux, mais tu ne me regardes pas. Alors, est-ce grave, docteur? C'était ça le titre de la soirée. Quelles sont les choses que les gens appellent les maladies graves? Est-ce qu'ils ont toujours raison? Est-ce qu'ils appellent grave ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'ils appellent pas grave ce qui est grave? Est-ce grave, docteur? Les gens pensent à quoi quand ils posent ce genre de questions?
En fait, docteur, c'est grave, comme le titre l'a indiqué. Ça, nous le vivons chaque jour. Chaque jour que ces questions se posent, vous avez consulté un malade, dès que vous avez terminé, il va vous demander, bon, docteur, vous pensez à quoi? Vous faites, par exemple, dans mon domaine, l'électrocardiogramme, vous prenez les tracés, vous les regardez. Docteur, est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Vous lui faites une échographie, on parle, à un moment donné, vous êtes silencieux, vous êtes concentré. Est-ce que je n'ai pas quelque chose de grave? Est-ce que je ne vais pas mourir? Ça, ce sont des questions qui viennent tous les jours. Mais toute maladie n'est pas une maladie grave. Tout dépend du type de maladie, du pronostic, de l'organe atteint. Bien entendu, quelqu'un qui vient, il a le rhumatisme, il n'a pas le même pronostic de vie que quelqu'un d'autre chez qui on va découvrir ou bien on va annoncer un cancer. Ou bien il vient, j'ai mal à la poitrine, vous faites votre électrocardiogramme, la biologie, tout ça, vous lui dites, vous avez un infarctus du myocarde, il faut qu'on agisse vite pour votre pronostic vital. Donc, les maladies graves, il y en a, qui peuvent être graves parce que c'est aigu, qui peuvent être graves parce que c'est chronique. Grave puisque c'est aigu, parce que c'est aigu, c'est ce que je viens de vous dire, par exemple, l'infarctus du myocarde, quelqu'un qui a fumé, il a abîmé ses artères, quelqu'un qui a mangé, sans tenir compte que la graisse c'est mauvais, et ça se stocke dans ses artères, ça bouche les artères, il fera un infarctus. Quelqu'un qui bouffe du sucre, l'excès de sucre se transforme en graisse, ça va boucher ses artères, ce sera une maladie grave. Quelqu'un qui fume, qui va abîmer ses poumons, il fera ce que nous appelons la bronchite chronique aiguë, c'est une maladie grave. À un moment donné de sa vie, il va avoir difficile à respirer. C'est une maladie grave. Quelqu'un, une jeune dame, 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui par hasard, qui va passer faire son bilan annuel, on lui dit, écoutez madame, on trouve qu'il y a un petit nodule au niveau de votre sein. Bon, on va faire la biopsie, on fait la biopsie et ce jour-là, on va lui annoncer que c'est un cancer. Ça, ce n'est pas non plus quelque chose anodine. Ou quelqu'un aussi qui a fumé et, ou qui a beaucoup bu, il a développé une cirrhose. La cirrhose va se transformer en cancer. Il a le cancer du foie, la tête, le ventre gonfle, les jambes gonflent. Donc, la maladie grave... ce diagnostic-là pour annoncer, c'est difficile d'abord à nous les médecins, c'est difficile aussi pour les malades d'entendre, parce que d'abord même pour annoncer, il faut tourner mille fois le ménage, comment le malade va accueillir la nouvelle, comment je vais annoncer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous.
Oui, juste avant l'annonce faites aux malades, dans ce que tu dis, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est toujours la faute du malade? Parce que tu as parlé d'un comportement qui provoque des maladies. Est-ce qu'il y a parfois des maladies, il manque de chance?
Non, exact, c'est une très bonne question. Effectivement, la plupart, je prends seulement, je mets entre parenthèses, cancer, les causes ne sont pas nécessairement connues. Vous pouvez avoir, par exemple, quelqu'un qui a fumé 4 paquets de cigarettes par jour et jusqu'au jour de sa mort à 90 ans, il n'a jamais eu un problème pulmonaire. Ou quelqu'un qui a fumé juste 2 cigarettes et il développe le cancer de la gorge. Donc, ce n'est pas la faute du malade. On ne sait pas prévoir, comme aussi, par exemple, un homme, avec l'âge, il va avoir, nous appelons ça hypertrophie de la prostate, parce que chez l'homme, il y a 2 organes qui grandissent, qui continuent à grandir, depuis qu'on est petit jusqu'à l'âge adulte. Pas jusqu'à l'âge adulte, mais toujours. C'est les oreilles et la prostate. Donc quand vous regardez les photos de vos enfants, ou de vos parents, ou des amis, quand ils étaient jeunes, vous regardez leurs oreilles et quand il est adulte, vous allez trouver que ça a quand même augmenté de volume. Bon, chez les hommes, il y a aussi la prostate qui, avec l'âge, augmente petit à petit de volume. À un moment donné, ça peut se cancériser. Bon, ce n'est pas la faute au patient, comme... une femme qui va, chez qui on va découvrir un cancer de l'ovaire ou de l'utérus ou de son col ou chez n'importe qui, un cancer du côlon. Donc c'est la faute, il n'y a pas de faute, mais c'est une maladie qu'on a découvert. Il faut prendre du temps pour annoncer, voir d'abord comment annoncer, savoir qui sont tout autour.
Alors justement, comment annoncer quelque chose comme ça?
Bon.
À quel moment est-ce que tu commences à te dire « il va falloir que je fasse une annonce désagréable à cette personne » Tu vois venir la chose?
Bon, quand il y a, par exemple, c'est un patient, quand il vient, c'était il s'en doute. Il sait que je m'attends à quelque chose de désagréable. D'autres, pas du tout, ça tombe. C'est comme un fusée qu'on a lancé, qui n'a pas réussi, qui tombe. Donc, pour annoncer, d'abord, on s'informe un peu sur le patient lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Parfois, c'est un patient que je ne suis pas, mais qu'on m'a transféré par un collègue pour que je puisse compléter un bilan. Maintenant, je découvre ça. Donc, je dois maintenant chercher à fouiller son passé, ce qu'il fait, ce qu'il a été, qui sont tout autour, ainsi de suite. On découvre parfois aussi un cancer chez un enfant. À ce moment-là, on va demander plutôt... Il faut d'abord informer les parents et puis Il ne faut pas cacher l'enfant, il faudra annoncer à l'enfant devant les parents. Je vous donne juste un petit cas. Il y a 2 ans, j'ai eu un jeune homme, 22 ans. Il faisait le sport. Maintenant, pendant le sport, il n'arrivait pas à courir. Il suffit seulement qu'il se mette à courir, il est essoufflé. Bon, on l'a envoyé faire certains examens chez les pneumologues, tout ça, ça n'a rien donné. Son médecin traitant l'a envoyé voir un cardiologue. Bon, le jour qu'il est arrivé, mon électrocardiogramme était en panne. J'ai commencé par le faire directement à l'échographie cardiaque. J'ai fait l'échographie cardiaque, il avait un cœur comme ça. Je lui ai demandé si dans sa famille il y a déjà des cas de mort subite. Il m'a dit non. Et puis je lui ai demandé s'il buvait, parce que l'alcool peut détruire les muscles cardiaques de façon toxique. Il m'a dit non. Et puis je lui ai demandé s'il fumait. Oh non, docteur, seulement 2-3 cigarettes par semaine. Il m'a dit, ah bon, 2 à 3 cigarettes par semaine. Mais il vous arrive, parfois il faut aller vers la confirmation, en confirmant la chose. Mais il vous arrive parfois de vous piquer. Vous vous piquez avec quoi? Il a commencé à pleurer. C'est un jeune homme. Il fumait la chiche, mais surtout, il s'est piqué de la cocaïne. Et la cocaïne a détruit le muscle de son cœur. Un jeune homme comme ça, à son âge, il devrait avoir ce que nous appelons la pompe, hein, la fraction d'éjection, il devrait avoir même autour de 74-75%. Mais lui, il n'avait que 18%. Je lui ai expliqué... À votre âge, pour que vous puissiez continuer à vivre, il faut que vous fassiez greffe cardiaque. Il n'y a pas d'autre solution.
Tu as dit ça comme ça d'emblée, plaf.
Non.
Alors, comment on fait une annonce comme ça?
Je suis en train de résumer. Oui, donc, je lui ai demandé d'abord s'il pouvait arriver, avant que je n'arrive là, je lui ai demandé si je pouvais voir, en discuter. Je voulais en discuter avec ses parents. Il m'a posé la question, mais vous voulez discuter avec mes parents sur quoi? Moi, non, c'est sur ce que je viens de voir, tout ça. Il faudra que, bon, le parent puisse vous aider, tout ça. Il dit, oh non, mais je ne veux pas que ce soit plutôt le parent. Moi-même, je peux me prendre en charge. Moi, pour vous prendre en charge, il faudra que vous arrêtiez de fumer, que vous arrêtez de vous piquer. Si vous vous arrêtez de fumer et de piquer pendant 6 mois confirmés, il y aura une solution pour vous. Alors c'est à ce moment-là qu'il m'a posé la question de savoir, alors il souffre de quoi? Je lui ai dit, non, votre cœur est gros. Votre cœur est gros parce qu'il y a eu ceci, il y a eu ça, mais vous avez encore de la chance que vous pouvez... Bon, il a pleuré, il a dit, mais je suis en deuxième année de droit, qu'est-ce que ça deviendra? Moi, il faut justement qu'on fasse ça. Alors, il va me demander que je ne dise pas à ses parents et que lui-même, il va négocier avec le médecin traitant. Parce que moi, donc, il m'a demandé de ne pas dire au médecin traitant que moi, je puisse le prendre en charge pour tout. Moi, je dis, mais non, ça, il faudra que vous soyez entouré. Votre médecin traitant doit être au courant. Il dit, non, est-ce que le médecin traitant est au courant parce que c'est l'ami de mes parents? Oui, mais justement, je vous ai dit que les parents vont vous aider, ils sont vraiment d'une grande utilité. Et c'est comme ça qu'on a arrangé. Et puis, il a eu de la chance parce que 8 mois après, on lui a quand même fait sa greffe cardiaque à Lille.
D'accord. Est-ce que les patients... est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que tu vas dire? Est-ce qu'il y a d'autres qui sont vraiment très surpris? Est-ce qu'il y a des gens qui n'entendent pas quand tu le dis? Quelles sont les réactions possibles?
Oui. Toute maladie grave, quand vous annoncez à quelqu'un, il y a d'abord un choc. Un choc psychologique, parce qu'on voit comme un voile, comme un nuage. On avait des projets dans la vie. on travaillait, on ne va plus travailler, on était mariés, il y a des enfants, quel sera le devenir des enfants? Donc, on voit déjà l'isolement social, familial, professionnel. Ça, c'est la première réaction qui vient, mais certaines personnes, ils vont plutôt faire semblant de ne rien connaître. Donc, il va entrer dans ce qu'on appelle le déni. La chose est là, l'événement est là, mais lui, il minimise. Bon, d'autres encore, ils vont plutôt tomber dans la dépression parce que il ne peut pas arriver à assurer. Et d'autres encore, parfois, ils vont plutôt faire plutôt un chantage. Il va dire non, ce médecin-là, il s'est trompé. Il va aller dans un autre hôpital. Il va là-bas, on lui dit la même chose. Il dit peut-être qu'ils se sont communiqués. Il va voir l'autre. Il va passer tout son temps comme ça. Et finalement, en attendant, la maladie évolue. Quand il va commencer à s'affaiblir, c'est à ce moment-là qu'il va se mettre en évidence, qu'il va accepter ce qui ne va pas. Mais il y a d'autres patients aussi, vous lui annoncez, il s'en doutait de quelque chose. Maintenant, quand vous lui annoncez, prenons une jeune dame qui a un nodule au niveau du sein, vous lui annoncez, vous lui dites que la biopsie qu'on a faite s'est localisée par mesure de prudence. Donc, on va faire, nous appelons ça la tumeur, on va lever la petite tumeur et puis vous ferez des rayons ou la chimio et après votre vie va reprendre comme normalement, comme il n'y a pas ce que nous appelons des métastases, donc les petites cellules cancéreuses parsemées par-ci, par-là. Une personne comme ça, il va prendre ça positivement. Même si quelqu'un d'autre à qui on annonce la même chose, il a déjà vécu avec, dans la famille ou dans l'entourage, avec quelqu'un qui a suivi ce genre de qui a eu ces maladies, qui a suivi ce genre de traitement. Il a vu si toutes les femmes chutent des cheveux, c'est la catastrophe. Donc, comment il va maigrir, tout ça, c'est là, une personne comme ça va s'effondrer.
Ok, donc il n'y a pas une réaction standard. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas une annonce standard?
Non, il n'y a pas d'annonce standard, à part les chocs qui bouleversent d'abord tout le monde, après il y a adaptation et toutes ces étapes on peut accepter donc facilement, mais après, suite au traitement qu'on suit, tout ça, on tombe dans la dépression parce qu'il y a parfois certaines personnes, c'est plutôt ce traitement qui est tellement agressif qui va vous assommer que la maladie en elle-même. Donc ça dépend d'une personne à l'autre. Et puis, toutes ces étapes peuvent évoluer de haut en bas, comme de bas en haut. Donc, ça dépend de la réceptivité d'un chacun. Ça dépend aussi de l'entourage. Ça dépend de la façon dont le personnel le prend en charge, les médecins, la famille, le personnel soignant. Bon, il y a aussi, c'est vrai que même nous, il y en a aussi, il va venir pour quelque chose de rien du tout. Ah, madame, vous avez un cancer du sein, tout ça. Bon, je ne sais pas s'il y a. Bon, la façon d'annoncer. Il n'y a pas une façon type d'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais il faut une certaine façon pour qu'une erreur de parole, faire semblant, pas faire semblant, mais être pressé pour annoncer un diagnostic aussi grave. Même si le malade allait amortir le choc, à voir le médecin qui annonce qu'il est tellement pressé, donc il voit que bon, c'est ma mort.
D'accord. Tu as parlé deux ou trois fois de la famille. Dans un monde parfait, bon, dans un monde parfait, il n'y a pas de malade, mais dans un autre monde parfait, la famille aide toujours. Est-ce que la famille aide toujours? Est-ce que le comportement de la famille est toujours utile pour le malade?
Le comportement de la famille est toujours utile. Et pas toujours.
Vas-y.
Je vais vous donner un exemple. J'étais dans un service, j'étais interne. en spécialisation, on a eu un patient qui est venu, qui était bien, mais il avait des difficultés pour uriner. De temps en temps, il y avait un peu de sang. Bon, on lui fait l'échographie, il y avait une masse. On fait la biopsie, il y a un cancer. On l'opère. Pendant qu'on l'opère, on s'est rendu compte que et les intestins et les piplons, la couche qui couvre les intestins, tout ça, il y avait des petits cancers. Il y avait des métastases. Bon. Quand on sort de la salle d'op, quand l'urologue sort de la... J'étais interne de la salle d'op. Quand on sort, on m'a demandé, la famille attendait devant, on a demandé si... Si ça allait. Moi, je dis non, il faudra poser la question au docteur. Bon, maintenant, après, justement, le chef de service venait derrière moi, il m'a dit que Christophe vient, il a pris la famille, pendant que l'autre médecin était en train de suturer la peau, nous sommes allés au bureau, il a expliqué à la famille ce qu'il y avait. Maintenant, sa fille a dit qu'il ne faut pas annoncé à mon père. Bon. Pourquoi on ne va pas annoncer à votre père? Il dit non, on ne va pas annoncer, il ne faut pas annoncer à mon père pour le protéger, tout ça. Le chef de service dit, mais c'est pour vous protéger, vous voulez vous protéger ou vous voulez protéger votre père? C'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à il y a 2 jours, il y a 3 jours, il était comme vous et moi. C'est quelqu'un qui avait des projets, c'est quelqu'un qui avait peut-être des comptes en banque et tout ça. Il faut qu'on le lui annonce pour qu'il puisse faire son deuil, pour qu'il puisse mettre la note sur certains éléments sur lesquels il devrait mettre la note. Bon, sa fille a influencé la pauvre mère et l'autre fille qui était à côté, qui ne parlait pas, qui était plus jeune. Donc, elle s'est imposée. Bon, elle menaçait pratiquement. Nous, on n'a rien fait. On a suivi. Maintenant, 2 jours après, le monsieur est décédé. Au staff, on a condamné le chef de service. On a condamné toute l'équipe parce que c'était un malade conscient, responsable. Il fallait le mettre au courant parce que le malade a le droit de connaître son diagnostic. À part un enfant, un mineur. Le mineur, il faut d'abord aviser les parents. Mais un adulte a droit de connaître son diagnostic. Bon, donc, on a tapé à côté, donc la famille n'a pas aidé.
Ok, d'accord. Il y aura un temps de questions. On va peut-être revenir sur cette histoire d'importance de la famille. Il y aura un moment pour les questions au docteur Mavoula, comme il y aura des questions pour mon collègue, le pasteur Ladbrook, qui va venir maintenant prendre sa place devant vous. Stuart Ladbrook est britannique, mais ce n'est pas grave. Il vient du Nord, en plus, mais il est quand même bien. Et Stuart Ladbrook est aumônier à l'hôpital Pompidou, qui est très connu, et puis dans d'autres établissements aussi, je pense, parce qu'il n'y a pas assez de crédit pour mettre un aumônier dans chaque hôpital, comme on devrait le faire. Tu veux nous rapidement donner la liste des établissements où tu travailles?
Donc je suis aumônier à plein temps, donc je suis sur un groupe hospitalier de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et dans l'occurrence, mon groupe comporte 3 hôpitaux, donc Georges Pompidou, d'un seul temps dans le 92, et Vaugirard, donc un établissement plus petit, dans le Paris 15e. Je suis assez chanceux parce que j'ai des collègues qui ont plus d'hôpitaux, parce que le groupe hospitalier est plus grand.
D'accord. Donc, Dr Mavoula nous a parlé du côté technique, c'est-à-dire médical, mais toi aussi, c'est un côté technique. Les gens viennent te voir... parce qu'ils sont juste avant ou juste après une de ces questions, un de ces diagnostics. En général, ils arrivent dans quel état quand ils viennent te voir? Ou si tu les vois dans tes visites, dans les services?
Peut-être, avant de répondre, j'aimerais dire quand même que la place de l'aumônier, c'est pas une chaise éjectable, mais c'est-à-dire qu'il faut faire sa place. Je m'identifiais beaucoup avec ce que le docteur a dit, mais où est la place de l'aumônier là-dedans? Dans l'hôpital français, le malade est reçu par le médecin, il y a une prise en charge peut-être par le psychologue, par le médecin, le chef de service, peut-être par l'assistant social. Et puis l'aumônier, il n'est pas cela. Il a sa place, mais il faut qu'il... enfin, qu'il le mérite, mais il faut qu'il occupe sa place. Et il faut que le malade ou son entourage le sollicite. C'est très rare qu'un médecin va nous renvoyer un malade. Pourtant, il pourrait le faire. Il a le droit de le faire. Le malentendu, c'est peut-être parce qu'on pense que l'aumônier, il y a une jolie citation que j'ai lue quelque part, le médecin regarde le malade droit dans les yeux et laisse l'aumônier à Dieu, quoi. Mais c'est justement ça le problème. Où est la place de l'aumônier? Alors, si le malade doit le demander, si le médecin ne l'envoie pas, la personne voit le malade, c'est parce que l'aumônier, dans l'esprit hospitalier, c'est l'avant croque-mort. Alors, donc, il y a des gens qui n'osent même pas demander l'aumônier parce que ils se disent, je ne suis pas en train de mourir, donc si l'aumônier vient me voir, c'est parce que c'est la fin. Alors, donc c'est déjà, si on se présente dans cet esprit-là, non seulement c'est une mauvaise nouvelle qu'on arrive, même avant qu'ils nous disent ce qui se passe. Alors, donc cela dit, on a notre place, mais il faut que le malade nous sollicite. On voit parfois des gens avant l'annonce, avant qu'ils aient vu les derniers résultats. Et parfois, les malades sont soulagés quand ils ont eu le résultat. Parce que ce qui est pire, à la limite, que la mauvaise nouvelle qu'on va vous annoncer, c'est d'attendre une nouvelle sans savoir ce qu'elle va être. Et donc, parfois, c'est l'angoisse de cette attente qui est plus difficile.
Oui. J'imagine que quelqu'un en bonne santé, grosso modo, il sait qui il est. Quand il y a un diagnostic, est-ce que la personne cesse de savoir un peu qui elle est? Est-ce que son attitude sur elle-même, sur son devenir, sur son avenir, est-ce que c'est ça que tu dois gérer ou est-ce que ça fait partie du questionnement? Tu as le droit de dire non, hein?
Oui, je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais...
Ok, dis-le à ta manière.
Oui, j'aime pas trop que vous m'avez appelé expert, mais bon, je crois qu'on apprend tous les jours, puis merci à chacun d'être là. Peut-être ces questions vous intéressent personnellement ou dans quelqu'un de votre entourage, hein. Il faut réfléchir à ces choses-là. La maladie en elle-même, c'est une rupture, surtout si vous êtes hospitalisé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre normalité à vous. Et donc, du coup... vous n'êtes plus vous-même, à la fois physiquement, mais aussi moralement. Vous êtes dans un autre rythme à l'hôpital, qui n'est pas votre rythme quotidien. Et donc, ça peut vous amener à poser des questions sur ce que vous êtes, sur votre devenir, et puis sur ce qui vous arrive, bien sûr. Mais oui, tous les malades ne se posent pas forcément ces questions. Je crois que quand les malades arrivent avec une mauvaise nouvelle, il y a cette sidération dont il était question. Et puis il y a le déni qui prend différentes formes. Et puis il y a le marchandage aussi. Donc tout cela peut faire partie de la remise en question ou la question d'identité de la personne. Mais c'est peut-être pas d'une façon aussi métaphysique tout de suite, hein. Enfin, ça dépend peut-être des malades plus en fin de vie, mais il y a un tel choc à la fois pour l'entourage et pour le malade que il sait pas où il en est, hein, dans les premiers jours, moi je dirais.
Je me suis demandé, avec la petite expérience que j'ai de ça, parce que en face de toi, c'est toi l'expert, c'est pas moi, tu fais beaucoup plus de ça que moi. J'ai parfois l'impression qu'il y a des gens qui, avant une grande maladie, pensent qu'ils sont croyants et découvrent la maladie qu'ils ne le sont pas. Et au contraire, des gens qui pensent qu'ils ne sont pas croyants et face à la maladie, ils découvrent qu'ils le sont. Est-ce que tu as rencontré ce genre de choses? Oui, la différence entre la religion officielle et ce qu'on croit vraiment quand les choses sont dures.
De toute façon, la maladie va vous amener, enfin, si vous êtes accompagné et si vous êtes entouré, enfin, à moins qu'il y ait un déni qui persiste, va vous amener à rentrer en vous-même, à être vous-même, et dans la nudité de la vérité. Et donc, vos croyances, ou ce que vous pensez croire ou pas croire, en tout cas, ce que vous êtes réellement, ou ce que vous êtes en train de devenir, va venir à la surface, petit à petit. Mais le déni peut être aussi de ne pas être croyant, enfin, on peut être dans le déni de sa foi aussi. C'est vrai, le classique, c'est, ben oui, je suis devenu malade, donc le bon Dieu n'est pas là, c'est sûr. Mais on voit l'inverse aussi, on voit des gens qui sont malades et qui reviennent vers la foi parce qu'ils ont dû arrêter, leur style de vie s'est arrêté, ils se posent des questions et ils reviennent un peu à ce qui est essentiel. La maladie, je crois effectivement, en tout cas la fin de vie, nous ramène à ce qui est le plus important pour nous dans la vie. Parce que c'est, on s'accroche à la vie et donc ce qui est au cœur de notre façon de croire ou de ne pas croire, ce qui est important pour nous, le devient encore plus. D'accord. Et l'accessoire finit par tomber. Mmh.
En préparant la soirée, on a abordé à nous deux l'attitude magique, mais au sens très large. Est-ce que tu peux parler un peu de ça?
Ben, le docteur l'a déjà mentionné sur un autre angle. Il y a dans ce déni, parfois, on va essayer de trouver la solution miracle, parce que finalement, ce n'est pas si grave que ça, je vais m'en sortir. Et ça peut être un vrai déni. Alors, je vais m'en sortir. Alors, ça peut être, je vais interroger différents médecins, parce que, bon, le premier s'est trompé, et puis le deuxième, enfin, il avait dit, vous étiez en collusion, donc il fallait trouver un troisième. Mais on cherche celui qui va nous sauver. Et puis, ben, en France, on a quand même un petit peu une certaine aura autour des médecins. Hein. C'est un petit peu les grands prêtres de nos jours, parce qu'ils peuvent faire des vrais miracles, n'est-ce pas? Non, mais la science a tellement progressé, cela est vrai. Hein. Et quand je vois mon cardiologue moi-même, je m'attends beaucoup de choses de lui. Mais on va chercher le remède miracle, parce qu'on ne veut pas admettre que ces jours sont en danger, que le pronostic vital est en question. Alors ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre on va consulter toutes sortes de thérapies, je dirais, alternatives. Hein. C'est très à la mode en ce moment de faire certaines thérapies, enfin je dirais non occidentales à l'origine, parce que bon, il y a peut-être une espérance de guérison. Alors, dans les gens qui ont une pratique religieuse, quelle que soit cette pratique, hein, parce qu'un aumônier, cela je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne suis pas là simplement, moi je suis aumônier protestant, mais je ne suis pas simplement pour rencontrer des petits protestants. Nous faisons à l'hôpital ce qu'on appelle répondre aux attentes spirituelles, c'est-à-dire, non pas dans le sens qu'on emploie ça dans les églises, mais les attentes spirituelles, ce sont des questions existentielles. Alors, la question existentielle, qu'est-ce que je vais devenir après cette annonce? Ça, c'est une grave question pour quiconque. Il n'y a pas besoin d'une spiritualité ou d'une religion pour aborder cette question. Donc, on peut aborder ces questions avec un aumônier sans être croyant, ou tout en étant bouddhiste ou musulman ou chrétien. Enfin, je ne dis pas que ça ne fait pas la différence, mais... On peut en discuter jusqu'à un certain point, ces questions-là. Donc, en fait, c'est pour nous, c'est de trouver des nouveaux créneaux, parce que si on se limite au strict religieux, là, on sera vite au chômage. Alors, oui, je suis un peu long dans ma réponse. La personne peut-être qui est croyante va peut-être chercher une solution religieuse à sa maladie, en espérant peut-être que je suis dans les mains de Dieu. J'ai eu quelqu'un récemment qui, on lui a annoncé un cancer au poumon. Une personne, elle dit qu'elle ne fumait pas, elle ne buvait pas. Et elle disait, mais je crois en Dieu, je suis dans la main de Dieu. Alors ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a un peu surpris. Elle m'a dit, mais Dieu a créé toutes les maladies, donc il n'y a pas de problème. S'il les a créées, il peut les maîtriser. C'est ça que ça voulait dire. Moi, je n'aurais pas tout à fait adhéré à cette façon de dire la chose. Mais en fait, ce qu'elle était en train de se faire, c'était de se rassurer que le Dieu en qui elle croyait était tout puissant, et qu'il était capable de maîtriser sa maladie et de la guérir. Et ce désir de guérison, je crois que c'est universel. C'est universel, le désir. Mais certains vont chercher dans des choses, on pourrait considérer assez farfelues, mais vous pouvez voir quelqu'un qui est dans un certain genre d'église, il va demander les anciens à venir faire une onction d'huile ou l'imposition des mains, ou vous allez faire une nuit de prière, enfin des choses comme ça, et parce qu'on veut que la personne soit guérie. Alors l'aumônier va peut-être avoir une certaine réserve sur ces questions-là. Je ne dirais pas que ce sont forcément des dénis. Des gens mobilisent leurs propres ressources, leurs croyances, pour les aider dans leur maladie. Là où c'est plus compliqué, c'est leur recherche d'une guérison miraculeuse et peut-être une fuite ou un déni de la réalité. Bon, c'est difficile parce que les gens vont dire « Oui, mais si Dieu est tout-puissant, il peut me guérir de toute façon, même sans le médecin. » Alors, répondre à ça...
Et t'as peut-être connu le cas que moi j'ai connu plusieurs fois, quelqu'un qui est malade en milieu chrétien... Et il trouve la personne qui a une bonne réputation d'avoir un bon score quand il prie pour le malade. La personne prie pour la personne malade, cette personne ne guérit pas. Et le prieur dit, tu n'avais pas assez de foi.
Oui, mais cet argument part d'une base qu'il faut une dose de foi importante pour être guéri. Mais déjà, qu'est-ce que c'est la guérison ? La guérison, est-ce que c'est la rémission? Par exemple, pour un cancer, il y a des gens qui ont des rémissions. Ils vont mieux pendant un certain temps. Mais après, ils retombent. Donc, est-ce que c'est ça, la guérison? Dans la tête des gens, la guérison, c'est parfois un peu... Enfin, oui, magique, j'aime pas dire ça, parce que je crois que Dieu guérit. Mais et Dieu peut guérir instantanément, c'est vrai, je le crois. Mais l'aumônier ne va pas donner des fausses espérances aux gens.
D'accord. Pour aller en amont, avant ces choses-là, parce que peut-être personne dans cette salle n'a eu à dire au médecin « est-ce que c'est grave ?» et entendre le médecin dire « oui ». Mais ça peut nous arriver. Est-ce qu'il y a une façon, là je m'adresse non pas à un technicien de la médecine, mais à un aumônier, est-ce qu'il y a une façon de se préparer dans la vie de tous les jours pour être plus apte à encaisser les mauvaises nouvelles?
Oui et non, parce que la réaction immédiate à l'annonce, je ne pense pas qu'on peut le prévoir. On ne sait pas comment on va réagir dans l'immédiat à une telle annonce. Enfin, dans la réaction immédiate, mais dans la gestion, dans la suite, oui, parce qu'on peut comprendre quelles sont les étapes qu'on a mentionnées, et on peut se préparer peut-être dans la mesure où, si on a une foi, une croyance, notre foi est quand même une antidote à l'angoisse et nous donne une direction à suivre. Alors, notre foi donc peut nous aider à nous préparer à la maladie. Mais il y a des moments où la foi elle-même elle est pathologique, c'est-à-dire où notre pratique religieuse est pathologique. Si nous pensons que Dieu guérit tous les malades et que en fait la maladie c'est quelque chose d'anormal qui n'arrive jamais et que ça ne m'arrive que si... je suis fautif ou j'ai fait quelque chose, là, on n'est pas préparé.
Ok, merci. On a enregistré tout ça parce que si nos deux orateurs sont d'accord, on va mettre ça sur le site web dans pas très longtemps. Pour le temps de questions et de réactions dans la salle, nous allons couper l'enregistrement.